Vous écoutez, on lit pour vous.
L'Arctique a vécu l'année la plus chaude jamais enregistrée. Un texte d'Issam Ahmed, publié le 16 décembre 2025 dans Le Devoir. L'Arctique a vécu son année la plus chaude jamais enregistrée, selon un rapport de l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique, NOAA, paru mardi, qui dresse un tableau alarmant de cette région particulièrement soumise aux effets du réchauffement climatique. Entre octobre 2024 et septembre 2025, les températures ont été supérieures de 1,60 degrés à la moyenne enregistrée entre 1991 et 2020, selon le rapport annuel sur l'Arctique qui s'appuie sur des données remontant à 1900. Tom Ballinger, co-auteur de l'étude de l'Université d'Alaska, a déclaré à l'AFP qu'il était alarmant de voir un tel réchauffement sur une période aussi courte, qualifiant la tendance d'apparemment sans précédent à l'époque récente et peut-être depuis des milliers d'années. L'année analysée par la NOAA comprend l'automne le plus chaud, le deuxième hiver le plus chaud et le troisième été le plus chaud en Arctique depuis 1900. Cette région, qui englobe le pôle Nord, est touchée par un phénomène appelé amplification, qui fait qu'elle se réchauffe plus vite que les latitudes moyennes. Ce mécanisme est dû à de nombreux facteurs, comme la perte de la couverture neigeuse et de la banquise. Fonte de la banquise. En mars 2025 a été enregistré un recul inédit de la banquise de l'Arctique, avec le pic d'étendue le plus bas mesuré depuis le début de la surveillance par satellite. Les scientifiques du National Snow and Ice Data Center, NSIDC, ont estimé que la banquise de l'Arctique avait atteint sa taille maximale le 22 mars, avec une superficie évaluée à 14,33 millions de kilomètres carrés, soit la plus petite mesurée en plus de 4 décennies de surveillance satellitaire. Chaque hiver, la banquise, glace formée par le gel de l'eau de mer, reprend ses droits autour du pôle Nord et s'étend pour atteindre une surface maximale en mars. Mais en raison du réchauffement climatique d'origine humaine, la glace peine de plus en plus à se reformer. Un problème immédiat pour les ours polaires, les phoques et les morses, qui utilisent la glace comme plateforme pour se déplacer, pour chasser et pour mettre bas, explique Walt Meyer, co-auteur du rapport NSIDC. Si la fonte de la banquise ne fait pas directement monter le niveau des océans, contrairement à la fonte de la glace qui se situe sur Terre, calottes glaciaires, glaciers, elle provoque de nombreuses conséquences climatiques qui menacent beaucoup d'écosystèmes. Et cette fonte accentue également le réchauffement climatique, car en diminuant de superficie, la banquise blanche découvre l'océan qui, plus foncé que la glace, réfléchit moins d'énergie solaire et absorbe plus d'énergie. La fonte de la banquise et la hausse des précipitations perturbent aussi la circulation des océans avec l'injection d'eau douce en Atlantique Nord. Cela rend ainsi les eaux moins denses et moins salées, les empêchant d'alimenter la circulation méridienne de retournement de l'Atlantique, AMOC, un système de courants marins au rôle majeur dans la régulation du climat, dont certains permettent notamment d'adoucir les hivers en Europe. Vagues de froid. Et comme l'Arctique se réchauffe plus rapidement que le reste de la planète, cela fait diminuer les différences de température qui aident à garder l'air froid confiné près du pôle, permettant aux vagues de froid glacial de se répandre plus fréquemment dans les latitudes inférieures selon plusieurs recherches. Les précipitations dans la région ont également connu un niveau record sur la période octobre 2024-septembre 2025, également connue sous le nom de l'année de l'eau et classée parmi les 5 années avec le plus de pluie depuis 1950. Ces températures plus élevées et une météo plus humide entraînent par ailleurs le verdissement de la toundra, un milieu écologique constitué d'une végétation rase, et du permafrost, un sol gelé qui contient le double de la quantité de CO2 présente dans l'atmosphère et le triple de ce qui a été émis par les activités humaines depuis 1850. En 2025, la moyenne de verdure maximale de la toundra circumpolaire était la troisième plus élevée en 26 ans d'enregistrement satellitaire. Le dégel du permafrost ou pergélisol libère du fer dans l'océan et est notamment responsable du phénomène des rivières rouillées. Selon le rapport, plus de 200 cours d'eau ont ainsi été identifiés comme étant décolorés et orange, signe d'une dégradation de la qualité de l'eau, contribuant notamment à la perte de la biodiversité aquatique. C'était « L'Arctique a vécu l'année la plus chaude jamais enregistrée », un texte d'Issam Ahmed, publié le 16 décembre 2025 dans Le Devoir. Thank you.
Avoir des enfants malgré la crise climatique. Un texte de Charline Caro, paru le 6 janvier 2026 dans le magazine Urbania. Lorsqu'elle parle de ses enfants, Maude, chargée de communication chez Mère au front, affiche un visage à la fois heureux et inquiet. Les changements climatiques progressent, puis là, il y a mes deux enfants qui sont tout jeunes, dans 10, 20, 30 ans. À quoi va ressembler leur vie? S'inquiète la mère de famille. Elle raconte que, depuis toujours, elle a vécu avec deux certitudes. L'envie d'avoir des enfants et l'urgence de combattre la crise climatique. Au moment de fonder une famille, Maude a réfléchi à l'empreinte environnementale de ses enfants, mais pas nécessairement à la viabilité de leur futur. C'est une fois devenue mère, voyant les changements climatiques s'accentuer, qu'elle s'est demandé « Mon Dieu, qu'est-ce que je viens de faire? Quel avenir j'offre à mes enfants? » Maude, Katia, Elliot, Clémence et Annick, tous vivent avec la crise climatique en toile de fond, autant par leur travail que leurs valeurs. Tous aussi ont désiré être parents, malgré la menace des changements climatiques. Horizon 2100. D'ici 2100, Montréal risque de se réchauffer de 4,3 degrés Celsius. Le nord du Québec, lui, de 6,1 degrés Celsius. C'est le scénario envisagé par le groupe d'experts en adaptation au changement climatique, GEA, dans le cas où tous les États respectent leurs engagements actuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Une telle hausse de température mènerait à la multiplication des canicules et des feux de forêt, ainsi qu'à la montée des eaux, à des pénuries d'eau potable et à des problèmes de santé publique à travers la province. Au niveau mondial, le réchauffement climatique atteindrait 2,8 degrés Celsius, menaçant la survie de plusieurs populations et entraînant insécurité alimentaire et instabilité géopolitique. Renoncer à faire des enfants. Annick, 44 ans, travaille dans l'agriculture de proximité. Avec son conjoint, ils ont décidé depuis leur vingtaine qu'ils n'auraient pas d'enfants, principalement pour des raisons environnementales. « Oh, es-tu prête ?» me répond-elle lorsque je lui demande à quoi le futur de ses enfants aurait ressemblé. Elle énumère alors les 7 limites planétaires sur 9 qui ont été dépassées, changement climatique, érosion de la biodiversité, et leurs conséquences, décès, déplacement massif. Et ça, c'est sans oublier toutes les autres crises économiques et politiques qui vont s'accentuer. La résidente de Québec avait envie de devenir mère, mais ses valeurs et la rationalité ont vite pris le dessus. Elliot, 22 ans, a lui aussi fait le choix de ne pas avoir d'enfant. L'étudiant en sciences politiques estime qu'être parent, c'est mettre au monde des individus à qui on doit assurer de bonnes conditions de vie. Or, il se dit pessimiste quant à celle qui attendrait ses potentiels enfants. Même si on ne peut pas prédire le futur, le vingtenaire constate l'inaction climatique des gouvernements, qui repoussent sans cesse leurs responsabilités aux années suivantes. La COP30 est un autre exemple de niaisage, tranche-t-il. Se préserver soi-même. Je ne veux pas mettre au monde quelqu'un qui va devoir vivre avec les conséquences de mon inaction, de celles de mes parents et de mes grands-parents. Défend Elliot. Renoncer à la parentalité devient aussi une façon de s'éviter une certaine culpabilité à l'égard de sa descendance. Annick, elle, veut se préserver de la charge mentale alors qu'elle ne s'estimait pas capable d'accompagner ses enfants dans la crise climatique. Ça prend des outils émotionnels pour le faire. « J'ai déjà de la misère à gérer personnellement tout ce qui se passe », confie-t-elle. Sensibiliser la prochaine génération. Clémence, autrice et comédienne montréalaise, hésite depuis plusieurs années à renoncer à son désir d'enfant en raison de la crise climatique. Elle s'interroge tout de même. Est-ce qu'avoir des enfants, ça ne peut pas aussi être une manière d'agir, de transmettre des valeurs différentes? Maud partage cette idée. Ça prend des personnes engagées pour prendre le relais. La mère de famille sensibilise tranquillement ses enfants à la cause environnementale, espérant qu'ils feront partie d'une nouvelle génération plus engagée. Selon les scientifiques, il y a encore une atténuation possible, rappelle Maud, qui espère que l'éducation des futures générations y contribue. Le GIEC estime en effet qu'il est encore possible d'éviter les pires scénarios, à condition d'accélérer fortement les réductions d'émissions d'ici 2050. L'efficacité de cette éducation à l'écologie ne convainc pas tout à fait Annick. Tu as beau faire de ton mieux pour transmettre les meilleures valeurs et les meilleurs outils possibles à ton enfant, le résultat n'est jamais garanti. Elle estime aussi que de s'accrocher à cette éducation équivaut à tout le temps mettre la responsabilité sur leur dos. Chacun son terrain de lutte. Adolescente, Katia ne voulait pas avoir d'enfant à cause des changements environnementaux et de leurs conséquences. À 21 ans, son anxiété vis-à-vis de la crise n'a pas diminué, mais elle ne voit plus la parentalité comme étant incompatible avec la crise. « Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de modèle à suivre », dit l'étudiante en environnement. L'essentiel, selon elle, c'est de trouver le rôle qui nous motive, puis si avoir des enfants me donne envie de m'impliquer, tant mieux. D'avoir eu des enfants m'a encore plus donné envie de passer à l'action, parce que là, il était question de leur vie. Maud a elle aussi trouvé dans la maternité une nouvelle motivation à lutter à sa manière, en se mobilisant avec Mère au front ou en rendant son mode de vie plus éco-responsable. Katia estime qu'il serait fataliste de renoncer à avoir des enfants en raison de la crise climatique. Je trouve que c'est un peu comme si on avouait notre défaite. Pour Annick, c'est au contraire le fait de ne pas avoir eu d'enfant qui lui a permis de trouver ce sentiment d'accomplissement et de cohérence. Ce choix, même si elle l'a vécu comme un sacrifice, lui a permis de consacrer plus de temps à la lutte contre les changements climatiques. Elliot ne voit pas non plus son choix comme défaitiste. Il refuse simplement de compromettre le bien-être d'enfants qu'il ferait naître. Et peut-être que, s'il parvient à développer un mode de vie acceptable et résilient, il reconsidérera un jour la question. C'était « Avoir des enfants malgré la crise climatique », un texte de Charline Carreau, paru le 6 janvier 2026 dans le magazine Urbania.
À qui s'adressent les aliments sans gluten? Un texte de Pauline Gravel, paru le 13 décembre 2025 dans Le Devoir. Un nombre croissant de personnes restreignent la quantité de gluten qu'elles absorbent, arguant faire face à une intolérance qui serait la source de divers symptômes, allant de dérangements intestinaux au déficit de l'attention. Une telle diète serait-elle la panacée? L'alimentation sans gluten est actuellement prescrite aux personnes atteintes de la maladie cœliaque, car il a été démontré que le gluten est le grand coupable à l'origine de cette grave pathologie. Mais un régime sans gluten n'est pas sans risque, car il expose, entre autres, les personnes qui l'adoptent à des carences nutritionnelles. Bannir de façon stricte tout aliment contenant du gluten est toutefois la seule stratégie qui existe à l'heure actuelle pour traiter la maladie cœliaque. Car chez les personnes qui en sont atteintes, ce groupe de protéines est perçu par le système immunitaire comme un danger qu'il s'emploie à éliminer ce qui entraîne du même coup une vive inflammation de la muqueuse intestinale. L'intolérance au gluten, quant à elle, n'est pas une pathologie reconnue. On parle plutôt d'une sensibilité au gluten non cœliaque. On ne comprend toujours pas très bien la cause de cette sensibilité. Certains experts pensent que d'autres molécules contenues dans le blé pourraient provoquer les symptômes observés. D'autres croient que cette sensibilité accrue serait en fait une forme particulière du syndrome de l'intestin irritable. On avance même que, dans certains cas, il s'agirait d'un effet nocebo, c'est-à-dire que la personne affectée croit que le gluten est nocif pour elle parce que ses troubles disparaissent lorsqu'elle s'en prive, alors que, dans les faits, le gluten n'a aucun effet délétère sur elle. Le gluten est un groupe de protéines présent dans plusieurs céréales, le seigle, le blé, l'orge et le triticale, un hybride du blé et du seigle. S'ajoute à ce groupe l'avoine. Il n'y a pas de gluten dans l'avoine, mais elle est très souvent contaminée. C'est pourquoi on l'a incluse dans les céréales qui contiennent du gluten, explique la diététiste nutritionniste Christine Desjardins, membre du comité scientifique de Cœliaque Québec. Les personnes atteintes de la maladie cœliaque doivent en effet éviter tout aliment qui ne contiendrait ne serait-ce qu'une trace de gluten. Un régime qui n'est pas sans risque. Les personnes qui s'astreignent à une diète sans gluten s'exposent à certaines carences nutritionnelles, prévient d'ailleurs la diététiste. En retirant plusieurs céréales de l'alimentation, on retire de la variété en matière de nutriments. De plus, contrairement à la farine de blé blanche, qui, au Canada, est obligatoirement enrichie en fer et en plusieurs vitamines du groupe B, les farines sans gluten ne sont pas soumises à un tel règlement. La plupart des produits sans gluten sont principalement préparés avec de l'amidon de riz, de pommes de terre ou de maïs, ainsi qu'avec un peu de farine sans gluten, de riz, de maïs, de pommes de terre ou de manioc, notamment. En l'absence de gluten, qui apporte de belles propriétés en cuisine, l'amidon va donner une meilleure texture, explique Madame Desjardins. Mais malheureusement, il a une moins bonne valeur nutritionnelle. C'est un glucide qui ne contient rien d'autre que des sucres, alors que la farine de blé contient aussi un peu de protéines, des vitamines, des minéraux et des fibres. De plus, les produits sans gluten contiennent souvent un peu plus de sucre, de gras et de sel que les produits réguliers, puisque cela améliore leur texture et leur goût. Il existe toutefois de très bons produits sans gluten auxquels on a ajouté des grains entiers de lin ou de chia ou qui sont faits avec de la farine d'amande, d'amarante, de sorgho, de millet, de sarrasin, de quinoa, de tapioca, de sagou ou de teff. Ces produits présentent une bonne valeur nutritionnelle, mais coûtent souvent beaucoup plus cher. Le prix des produits sans gluten peut d'ailleurs être le quadruple ou le quintuple de celui des produits réguliers, ce qui représente un véritable défi pour les gens qui sont atteints de la maladie cœliaque et qui ont de faibles revenus. Le fait de suivre une diète sans gluten, sans supervision médicale, peut aussi entraîner une autre conséquence néfaste. Il y a en effet un risque de passer à côté d'un diagnostic de maladie cœliaque. Le plus grand danger, c'est d'avoir une maladie cœliaque qui resterait cachée parce qu'on ne l'a pas dépistée. Souvent, les gens qui suivent un régime sans gluten, sans avoir de diagnostic de maladie cœliaque, ne vont pas le faire de façon très stricte. Ils vont se permettre de la contamination ou un petit dessert de temps en temps. Et là, la maladie peut causer des dommages. Même si les symptômes ne sont pas extrêmes, la muqueuse peut être endommagée. Et le syndrome du côlon irritable, Certaines personnes souffrant du syndrome du côlon irritable s'imposent toutefois une diète sans gluten, car elles en ressentent des bienfaits. Mais dans leur cas, les coupables seraient plutôt des molécules qu'on appelle des FODMAP, de l'anglais Fermentable Oligosaccharides, Disaccharides, Monosaccharides and Polyol. Des glucides qui ont tendance à fermenter dans l'intestin et ainsi à provoquer des ballonnements, des gaz et des douleurs abdominales. On trouve des FODMAP dans plusieurs fruits, légumes et légumineuses, ainsi que dans le seigle, l'orge et le blé. Or, comme il y a à la fois du gluten et des FODMAP dans plusieurs céréales, les gens qui éliminent le gluten de leur alimentation diminuent du même coup leur consommation de FODMAP, ce qui expliquerait l'atténuation de leurs symptômes. Une fois qu'on a mis de côté les diagnostics de maladie cœliaque ou de syndrome de l'intestin irritable, il reste la possibilité d'une sensibilité au gluten non cœliaque. On peut tester ça avec le patient en consultation nutritionnelle. On va d'abord retirer le gluten et ensuite le réintroduire graduellement pour voir si les symptômes réapparaissent. Et pour être certain que ce n'est pas un effet psychologique, explique la diététiste nutritionniste Christine Desjardins, qui ne recommanderait d'ailleurs jamais une diète sans gluten en l'absence d'un diagnostic la rendant nécessaire. C'était « À qui s'adressent les aliments sans gluten ?» un texte de Pauline Gravel, paru le 13 décembre 2025 dans Le Devoir.
David Wingrow, il faut déconstruire les mythes sur les origines de notre ordre social. Des propos recueillis par Laetitia Cassi, parus le 26 juin 2025 dans le courrier de l'UNESCO. Les sociétés humaines se seraient d'abord organisées en groupes de chasseurs-cueilleurs égalitaires vivant en harmonie avec la nature. Avec la domestication du bétail et le développement de l'agriculture, donc de l'accumulation de richesses, seraient ensuite apparues des sociétés complexes et hiérarchisées. Professeur d'archéologie comparé au University College de Londres, David Wingrow remet en cause l'idée d'une évolution naturelle des sociétés. Son livre « Au commencement était, une nouvelle histoire de l'humanité » coécrit avec l'anthropologue David Graeber est devenu un best-seller. Dans le livre que vous avez publié en 2021, vous remettez en cause l'idée d'un lien entre l'agriculture et hiérarchisation sociale. Sur quel fondement? L'idée que l'agriculture donne naissance à la propriété privée et à un gouvernement organisé découle de la pensée européenne des Lumières. Elle a servi d'instrument juridique qui permettait de justifier l'appropriation par l'Europe de terres et de ressources appartenant à des peuples du monde entier, qui étaient organisés selon d'autres formes de propriété physique et intellectuelle. Aujourd'hui, les archéologues commencent à reconsidérer cette approche, mais avec beaucoup de retard. Pourquoi ce récit a-t-il prévalu si longtemps? Si le récit selon lequel la propriété et la complexité sociale trouvent leur origine dans les pratiques agricoles s'est imposé, c'est qu'il fonde nos mythologies modernes sur la civilisation humaine et le progrès. Ces mythes font partie intégrante des systèmes de pensée politique et des codes juridiques européens. Ils sont communs à des penseurs des Lumières tels que John Locke, Jean-Jacques Rousseau ou Adam Smith, dont les écrits forment le socle des sciences sociales modernes, y compris dans des domaines comme l'économie ou la philosophie politique. Déconstruire des notions aussi profondément ancrées nous oblige à faire face à l'ampleur même de ces violations et aux défis de la réparation. Les découvertes archéologiques récentes suggèrent que les sociétés anciennes étaient bien plus diversifiées qu'on ne le pensait. En quoi cela modifie-t-il notre compréhension de l'histoire? Depuis plusieurs décennies, l'archéologie a permis une compréhension plus empirique du passé humain. Or, ce qu'elle a mis au jour ne ressemble en rien aux spéculations des philosophes des Lumières, vieilles de plusieurs siècles. On trouve ainsi de nombreuses preuves de l'existence de systèmes d'inégalités sociales et de hiérarchies politiques dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs, bien avant l'apparition de l'agriculture. Certains de ces systèmes trouvent leur origine dans une très lointaine préhistoire, comme la culture Jomon au Japon. On les retrouve aussi dans des sociétés non agricoles, comme les Calusas en Floride ou les sociétés de la côte nord-ouest du Pacifique qui ne pratiquaient pas l'agriculture mais vivaient dans des sociétés de classe composées de nobles, de roturiers et d'esclaves. On trouve aussi des sociétés de chasseurs-cueilleurs qui ont consciemment rejeté ces formes extrêmes d'inégalité et d'autres qui sont étonnamment égalitaires ou qui passaient en fonction des saisons d'un système égalitaire à un système hiérarchique. Les découvertes archéologiques récentes révèlent aussi que les débuts de l'agriculture n'ont pas été révolutionnaires. Il s'agit d'un processus qui a pris des milliers d'années sur tous les continents, avec des résultats clairement mitigés. Dans certains cas, comme au Moyen-Orient ou en Europe centrale, les premiers villages et villes agricoles semblent nettement plus égalitaires que leurs voisins chasseurs-cueilleurs. Quel rôle joue aujourd'hui l'archéologie dans les débats publics et dans notre façon d'envisager l'avenir? L'archéologie est impliquée dans l'avenir du monde à différents niveaux. Elle est mêlée à l'histoire et à la politique à travers les conflits territoriaux, le commerce illicite d'objets culturels ou le tourisme, tout en étant engagée dans des projets de conservation de l'environnement, de revitalisation du patrimoine et de justice sociale. Ces forces sont souvent en tension profonde les unes avec les autres au niveau local et mondial. Depuis l'apparition de « Au commencement était » et sa traduction en plusieurs langues, j'ai également pris conscience de l'immense intérêt du public pour les découvertes archéologiques partout dans le monde. Enquêter de manière critique et scientifique sur le passé humain peut fournir un langage commun par-delà les frontières et aider à déconstruire les mythes persistants sur les origines de notre ordre mondial actuel. C'était David Wengrow. Il faut déconstruire les mythes sur les origines de notre ordre social. Des propos recueillis par Laetitia Cassi, paru le 26 juin 2025 dans le Courrier de l'UNESCO.